On reprend notre étude au fil des versets dans Romains. Il y a quelques semaines, on a vu qu'on avait des devoirs envers les autorités en tant que chrétien, que toute autorité vient de Dieu et qu'on devait respecter ces autorités. Le seul cas où on pouvait leur désobéir, c'était lorsqu'elles nous forçaient à désobéir à Dieu. Mais dans tous les autres cas, et notamment dans le devoir de payer des impôts, on doit le faire sans rechigner. Et ces magistrats, ces gens qui récoltent les impôts, ces percepteurs, sont en fait des serviteurs de Dieu. Parce que c'est Dieu qui a institué les autorités civiles, le gouvernement. On a vu qu'il avait institué le mariage et la famille, et puis l'Église. Et ce n'est pas pour notre malheur, c'est pour notre bien. Paul terminait la première partie de ce chapitre 13 en disant « Rendez à chacun ce qui lui est dû, l'impôt à qui vous devez l'impôt, la taxe à qui vous devez la taxe, le respect à qui vous devez le respect, l'honneur à qui vous devez l'honneur. » Et il continue. On va lire ensemble le passage du verset 8 au verset 14. Il nous dit « Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. En effet, les commandements, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignage, tu ne convoiteras pas, ainsi que tous les autres, se résume dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait pas de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Cela est d'autant plus important que vous savez quel temps nous vivons. C'est l'heure de vous réveiller, enfin du sommeil. Car maintenant, le salut est plus près de nous qu'au moment où nous avons cru. La nuit est bien avancée, le jour approche. Débarrassons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Conduisons-nous honnêtement, comme en plein jour, sans orgie ni ivrognerie, sans immoralité ni débauche, sans dispute ni jalousie. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et ne vous préoccupez pas de votre nature propre pour satisfaire ses convoitises. Amen. Passage court et pourtant très riche. Est-ce que vous avez du mal à garder les 10 commandements ? Normalement, vous devriez y avoir du mal parce qu'ils sont donnés pour nous montrer qu'on a besoin d'aide pour vivre selon la volonté de Dieu. Ils sont pas c'est pas une échelle pour grimper dessus et dire « ça y est, j'y suis arrivé ». C'est une échelle où chaque échelon est si impossible à atteindre qu'on dit « mais je peux pas, j'y arrive pas ». Et bien sûr, quand on parle au commun des mortels et qu'on leur parle un peu de foi et on leur demande s'ils sont une bonne personne, ils nous disent « oui » et « comment vous pouvez apprécier ça ?»« Ben je respecte les 10 commandements, j'ai jamais tué personne, j'ai jamais volé une banque. » Puis si on les pousse un peu, il faut le faire avec amour, pas pour les humilier. Si on leur demande ou si on nous demande, quels sont ces 10 commandements? Est-ce qu'on les connaît seulement? Je vous les rappelle pour que vous n'ayez pas à vous demander quels ils sont. Premier commandement, un seul Dieu. de ne consacrer un culte qu'à un seul Dieu. Deuxièmement, pas d'idole. Les idoles, on sait que c'est pas seulement les statuettes devant lesquelles on s'agenouille en brûlant de l'encens, ça peut être une passion qui prend la place qui devrait revenir à Dieu. Troisièmement, ne pas prendre le nom de Dieu en vain. Respecter le nom de Dieu. Mon père, qui n'était pas, malheureusement, je ne crois pas sauvé, j'espère toujours une bonne surprise quand on sera de l'autre côté de l'éternité, il utilisait l'expression « nom de Dieu » comme une injure. Pas prendre le nom de Dieu en vain. Respecter le sabbat. Et ça, c'est un commandement qui est donné pour notre sanité, pour notre bien-être, pour qu'on puisse se reposer. On est souvent pris par les choses, par l'activité, l'activisme, au point de ne jamais prendre le temps devant Dieu, de penser à lui, de penser, de l'adorer dans sa nature, dans sa création. Ça, on dit que c'est la première tablette, ça concerne de la loi, ça concerne notre relation verticale avec Dieu. Un seul Dieu, pas d'idole, pas prendre son nom en vain, respecter le sabbat dont il nous a donné l'exemple en se reposant le septième jour de la création. Et puis il y a six autres commandements qui s'adressent à nos relations horizontales, c'est-à-dire avec nos proches, avec les hommes et les femmes sur cette planète. Honore tes parents, pas commettre de meurtre, ne pas commettre d'adultère, ne pas commettre de vol, ne pas dire de mensonge, ne pas avoir de convoitise, désirer ce qu'ont les autres. C'est un des ressorts de la publicité aujourd'hui. Mais c'est quelque chose qui n'est pas selon la volonté de Dieu. Et Paul nous dit en fait que il rappelle quelques-uns de ses commandements au verset 9. Il ne cite pas le commandement d'honorer ses parents, mais il précise bien qu'il y a d'autres, ainsi que tous les autres. Donc il sait qu'il y a d'autres commandements. Et il nous dit qu'en fait, pour obéir à ces commandements, la solution était simple. Il nous dit, ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. Pour respecter les 10 commandements, il suffit d'aimer Dieu, mais là il se concentre sur d'aimer les hommes qui nous entourent. Et bien sûr, si on aime vraiment les gens qui nous entourent, on ne va pas les tuer, on ne va pas avoir de relations sexuelles avec leur époux ou leur épouse. On ne va pas voler leurs affaires, on ne va pas leur mentir, et on ne va pas désirer les choses qu'ils possèdent au point de vouloir les voler aussi, avoir cette convoitise. Et c'est ce que résumait très bien le grand Saint Augustin. Saint Augustin, c'était un des premiers chrétiens qui a une influence sur l'histoire du christianisme. C'était un Algérien. L'Algérie était chrétienne avant d'être prise par l'islam. Il venait en fait de la région de Kabylie, et c'est quelqu'un qui a un grand penseur. On en reparlera à la fin. Mais il avait résumé la foi chrétienne ou les commandements. Les gens veulent savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour être chrétien, qu'est-ce qu'il faut faire pour aller au paradis. Et il disait très simplement, je ne vais pas le dire en latin parce que je n'ai pas noté, mais il disait « Aime Dieu et fais ce que veut. If you love God, you will love people around you. » Ça, c'est en anglais. Si vous aimez les gens, si vous aimez Dieu, vous allez aimer les gens autour de vous. Donc, s'il y a cet amour de Dieu, vous pouvez faire ce que vous voulez. Waouh ! Ah vraiment ? Est-ce que je peux ? Non, non, non. Laissez l'amour de Dieu vous remplir et vous allez aimer les hommes autour de vous. Vous allez leur faire du bien. Vous allez les bénir. Et c'est très simple. Aime Dieu et fais ce que veut. Essayez d'imaginer un instant ce que serait le monde si on pouvait aimer Dieu et ceux qui nous entourent de la même façon. C'est arrivé à quelques périodes de l'histoire, il y a eu ce qu'on appelle des réveils chrétiens, et notamment au Pays de Galles, dans les années 1800. Et d'un seul coup, lorsque tous les hommes cherchaient à plaire à Dieu et qu'ils l'aimaient vraiment, ils aimaient leurs semblables, il n'y avait plus de tribunaux, les juges n'avaient plus besoin de travailler, il n'y avait plus de prison, il n'y avait plus de divorce, il n'y avait plus de guerre, il n'y avait plus de crime, il n'y avait plus de police ni d'armée. Donc sans doute beaucoup moins d'impôts. Et imaginez que vous soyez rempli d'amour pour Dieu et d'amour pour les autres, tous en même temps. On serait là à se disputer, non, et on le fait des fois un peu par formalité, par formalisme, ou par, non, je vous en prie, après vous. Mais si c'était vraiment une attitude qui imprégnait notre monde, ce serait formidable, n'est-ce pas ? Alors Dieu aurait pu imposer ça, mais il nous laisse le choix, et dans notre liberté de choix, nous avons décidé de ne pas lui obéir. Et il nous dit, en fait, ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Et car celui qui aime les autres a accompli la loi. Il nous dit, en fait, c'est le sens grammatical, c'est ne restez pas dans cette situation où vous devez quoi que ce soit à quelqu'un. Certains utilisent ce verset pour dire qu'on ne doit pas faire d'emprunt, qu'on ne doit pas acheter les choses à crédit. Alors ce verset ne s'applique pas à ce sujet. Il y a plein de versets qui nous montrent que même Jésus disait « Si tu avais placé ton argent, ça aurait rapporté quelque chose. » Ce qui était proscrit dans la Bible, et surtout dans l'Ancien Testament, et même dans le Nouveau, ce sont les gens qui exploitent les autres avec des taux usuraires, des taux exagérés. Mais le fait d'emprunter de l'argent pour acheter quelque chose, alors il s'agit de faire attention, et la Bible est pleine de versets qui nous mettent en garde contre une folie dépensière où on prend une carte de crédit pour rembourser la première et ainsi de suite. Mais ce n'est pas ça qui est condamné. Il nous dit, en fait, on a une dette envers Dieu. Jésus-Christ a payé la dette infinie que nos péchés avait contracté. Dieu doit nous punir de mort, mais Jésus-Christ est mort à ma place, et ça, c'est une dette incroyable que j'ai envers Dieu. Et la seule façon dont je puisse m'en acquitter, c'est d'aimer les autres. En petits versements. À chaque instant, à chaque fois que j'aime quelqu'un, c'est comme si je paye un petit peu cette dette. Mais cette dette, elle est tellement énorme qu'on ne va jamais finir par la payer. Sinon, je n'aurais pas eu besoin du sacrifice de Dieu à ma place. J'aurais pu être gentil et mériter mon pardon, ce qui coûte infiniment à Dieu de pardonner des gens pécheurs. Le péché, c'est tellement contraire à sa nature qu'il ne peut pas l'excuser. Nous avons tendance, parce que nous sommes nous-mêmes des pécheurs, à dire qu'au bout d'un moment, « Oh, ça va, on efface la dette. » Nous avons une dette ineffaçable. Et il nous dit que ce qui est formidable, c'est que quand on s'acquitte de cette dette par des petits versements, en fait, on obéit aux 10 commandements. On est dans cette position où on aime Dieu et on fait ce qu'on veut. Et il dit même que on a accompli la loi. On l'a réalisé au maximum. On n'a pas à chercher tel commandement si on aime les autres. Alors ce qui est intéressant, c'est que il commence par dire « Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres. » Les autres, dans cette expression, dans cette première partie, c'est les autres comme nous, sous-entendu les chrétiens. Et on sait que c'est à notre amour les uns pour les autres que le monde verra que nous sommes les disciples de Jésus-Christ. Puis il va plus loin, il dit « Celui qui aime les autres », et là il dit « Les autres, même d'une autre nature, il a accompli la loi. » Donc cet amour que nous devons payer et duquel nous ne pourrons jamais nous acquitter complètement, non seulement il est pour ceux dans la famille de Dieu, mais il est pour tous les hommes. Et c'est vrai que les 10 commandements, ce n'est pas des relations à avoir seulement avec les chrétiens, c'est avec toute l'humanité, avec tous les hommes. Et encore une fois, ce n'était pas pour interdire d'acheter une maison à crédit. Un auteur a dit qu'en fait, toute dette était comme un petit vol, parce qu'on prend quelque chose à quelqu'un qui nous le passe, normalement avec de bon cœur ou de façon convenue, et puis on doit ne rien devoir à personne, ça veut dire de rembourser nos dettes à temps, pas avec du retard. Et si vous n'y arrivez pas vous-même, on vous demande de prendre une caution solidaire. Vous devez avoir quelqu'un qui est prêt à vous aider si vous n'y arrivez pas. Mais les dettes, c'est sacré, mais encore plus la dette d'amour. Cette dette d'amour, je dirais que celui qui peut nous aider, c'est le Saint-Esprit. C'est notre caution solidaire. Est-ce que le Saint-Esprit a aussi signé vos papiers quand vous avez dit à Dieu que vous allez le suivre et en quelque sorte, il le fait ? Et bien sûr, les 10 commandements, vous avez remarqué que c'est « tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas cela », c'est dans un sens négatif. Toutes les choses qu'il ne faut pas faire, bien souvent les choses que l'on fait. Paul le disait dans Romains 7, on l'a étudié, je ne fais pas les choses que je veux faire, mais je fais celles que je ne veux pas faire. Malheureux que je suis, qui va me délivrer de ce corps de mort ? L'amour, il satisfait la loi, il l'accomplit, il la remplit parfaitement. Pourquoi ? Parce qu'il va au-delà. l'amour ne fait pas de mal au prochain, l'amour fait du bien au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. C'est intéressant aussi parce que souvent on a l'habitude d'opposer la loi, c'est la chose qui nous contraint, à l'amour qui est la chose qui nous libère et qui nous fait du bien. Mais dans l'Esprit de Dieu, d'après ce verset, l'amour et la loi sont reliés. Mais la loi, on doit y obéir non par crainte, mais par amour. J'aimais bien, il y a une illustration d'un auteur chrétien qui dit qu'on a le choix de vivre soit dans la maison de la peur, soit dans la maison de l'amour. La peur, c'est ce qui fait qu'on se dit si je n'obéis pas aux 10 commandements, si je ne paye pas mes impôts complètement et que j'ai un contrôle fiscal, je vais prendre cher. C'est la peur qui nous motive. Alors, ça fait rentrer de l'argent dans les caisses de l'État. La motivation de la peur n'est pas une mauvaise motivation en soi, mais elle est infiniment plus faible que la motivation de l'amour. Si je paye mes impôts en disant « ça va servir à construire des hôpitaux, ça va aider à construire des logements pour les plus démunis, ça va permettre de donner du travail aux autres », si je le fais en disant, en faisant confiance au gouvernement, pour que ce soit des bonnes motivations pour l'utilisation, je peux payer mes impôts avec amour. Et c'est intéressant aussi parce que la motivation de la peur, elle n'est pas très forte par rapport à la motivation de l'amour. Quand je paye mes impôts, je m'assure que je ne paye pas un euro de plus que je ne dois. Je ne dis pas, bon, allez, on arrondit pour le percepteur, pour le ministre des Finances qui a une phobie administrative et qui ne paye pas ses impôts, lui. Non, je m'assure que je ne vais pas payer un centime de plus que je ne dois au gouvernement. Par contre, si mon fils, ma petite fille, surtout ma petite fille, me demande un euro et que je vois que j'ai qu'un billet de 5 euros dans la poche, par amour, je vais donner 5 fois plus. Et donc, la motivation de l'amour, c'est ce qui doit nous animer lorsque nous vivons notre vie chrétienne. C'est important de bien comprendre ça. Et la loi, encore une fois, la loi est bonne, la loi est parfaite. Elle nous montre notre péché. Elle est celle que Jésus a vécue parfaitement. Mais c'est la peur qui est mauvaise. La peur qui nous fait obéir à la loi, elle est mauvaise. Parce qu'on a peur de la punition au lieu d'aimer le Dieu qui nous bénit et qui veut nous bénir. C'est quelque chose qui revient beaucoup dans le Nouveau Testament. L'amour le fait que Dieu soit un Dieu d'amour, c'est pas seulement dans le Nouveau Testament. Exode. Il y a un passage 14-18 que je ne retrouve plus maintenant. Est-ce que c'est... Je croyais que c'était Lévitique. Qui dit que Dieu est un Dieu d'amour. C'est déjà dit dans l'Ancien Testament. Je croyais que c'était Lévitique 14-18, mais... C'est quelque chose qu'on retrouve sous la plume de Jésus, bien sûr, mais aussi sous la plume de Paul dans Galates 5, 14. En effet, toute la loi est accomplie dans cette seule parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc cette idée que pour être en accord avec la volonté de Dieu dans nos vies, ce qu'il nous faut, c'est l'amour. Paul est en accord avec Paul McCartney qui chantait « All you need is love ». La parole de Dieu nous dit la même chose. Tout ce dont nous avons besoin, c'est l'amour. Et puis, il passe un registre en disant, verset 11, « Cela est d'autant plus important que vous savez quel temps nous vivons. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous qu'au moment où nous avons cru. Si nous voulons être en règle, entre guillemets, avec Dieu, certains se disent, bof, j'ai le temps, je suis jeune, je verrai ça plus tard, là je me tournerai vers Dieu, j'essaierai de m'éloigner des péchés, mais en attendant je vais en profiter. Je me souviens d'une jeune sœur de Nancy. Nancy vient d'une famille où il y avait 9 sœurs et 3 frères. Et il y a eu un réveil dans la famille de Nancy. Un frère s'est converti, une sœur s'est convertie, ce couple s'est radicalement converti, ils sont partis comme missionnaires au Népal, et puis ça fait une réaction en boule de chaîne. Une réaction en chaîne, pardon, en boule de neige. Et ça nous a touchés, Nancy et moi avons été touchés par ce réveil familial. Et puis il y avait la plus jeune sœur de Nancy qui nous disait « Oui, je veux bien venir à Jésus, mais pas tout de suite. » On lui disait « Mais pourquoi ?» Elle nous disait « Mais regardez-vous, vous avez vécu sans connaître Dieu, vous avez fait n'importe quoi. » Vous êtes bien amusés, elle nous disait. Et moi, je voudrais aussi prendre mon temps pour m'amuser. Puis après, alors oui, quand je serai trop âgé pour m'amuser, alors je considérerai Dieu. Mais en fait, on essayait de lui dire, mais en fait, on regrette de ne pas avoir connu Dieu plus tôt. Et là, cette idée que le temps passe vite. Cette dette que nous devons payer par petits versements à chaque instant, chaque fois qu'on ne le fait pas, c'est une opportunité de moins qu'on a de le faire. Le temps passe de plus en plus vite quand on prend de l'âge. Quand on est enfant, on pense que les vacances d'été, c'est... Surtout à l'époque, quand j'étais enfant, on avait 3 mois de vacances, du 30 juin au 30 septembre. C'était long, c'était bien. Ah, juste avant, on avait l'impression qu'on allait avoir une nouvelle vie de vacances. Puis maintenant, on est tellement occupé, on prend des RTT, on a autant de temps de vacances pratiquement, mais ça passe si vite. Les choses vont si vite. Pâques est déjà passé. Noël, n'en parlons plus. Et pourtant, ça fait pas longtemps. Et Paul avait un peu aussi ce sentiment. Lui, il le voyait aussi dans la notion de fin des temps. On dirait, en termes pédants, une notion eschatologique de la fin des temps qui arrive. Mais c'est vrai que vous êtes tous plus près de la retraite que vous ne l'avez jamais été. Chaque instant qui passe, chaque moment qui passe, et nous sommes tous plus près du moment de notre mort que nous ne l'avons jamais été. C'est dû à la linéarité du temps qui passe. Et on se demandait, en parlant de ces sujets, de ce passage dans notre groupe de maison, mais comment ça va être de plus avoir de temps dans l'éternité? C'est Woody Allen qui disait que l'éternité, c'est très long, surtout vers la fin. On a du mal à se défaire de cette notion de choses qui arrivent les unes après les autres. Et c'était une personne qui disait, mais si on loue le Seigneur, il y aura un moment avant où on l'aura loué et un moment après, et pourtant il n'y aura plus de temps. Alors on ne va pas se perdre dans des réflexions philosophiques sur le temps, mais c'est vrai que c'est intéressant de penser qu'on sera plus lié à la notion du temps qui passe. On sait que Dieu est en dehors du temps. Il est dans une autre dimension. Et j'aime bien utiliser l'illustration de l'hélicoptère qui regarde le Tour de France. Pour nous qui sommes sur le bord de la route, le présent, c'est le gars qui passe juste en face de nous sur son vélo. Le passé, c'est celui qui s'était échappé, qui est déjà à 5 km devant. Le futur, c'est ceux qui sont derrière. C'est bizarre de parler de futur derrière, mais quand on regarde, le futur, c'est ceux qui vont arriver et qui ne sont pas encore là. Et pourtant, la caméra de FR3, elle voit le premier, elle voit mon présent, mon futur, mon passé. Alors, je ne sais pas si ça vous aide. Ça m'aide un peu intellectuellement à me dire que ça va être difficile de s'adapter. Mais que le temps passe, et Paul, il est encore du côté de l'éternité. Vous savez quel temps nous vivons? C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Et puis il ajoute, maintenant les saluts est plus près de nous qu'au moment où nous avons cru. Alors le salut, on se dit, attends, mais moi je suis sauvé déjà, qu'est-ce que ça veut dire le salut? Je vous rappelle juste brièvement qu'en fait là, je crois qu'il a en vue le troisième aspect du salut. Dans le salut, on a souvent répété qu'il y a le salut instantané, lorsqu'on accepte le sacrifice de Jésus, nous sommes justifiés, nous sommes libérés de la sanction du péché, de la punition du péché. Et ça arrive en un instant. Et puis, ça c'est le passé du salut, ce qu'on appelle la justification. Il y a le présent du salut, c'est maintenant, ma vie maintenant. C'est ce qu'on appelle la sanctification. Je suis libéré de l'esclavage du péché. Je n'ai plus à dire oui au péché dès que ma vieille nature me dit « Hey, tu devrais faire ça, ça sera bien. » Je suis libéré de l'esclavage ou de la puissance du péché. C'est la sanctification. Et puis, le salut dont il parle, c'est le futur du salut, c'est la glorification, où on sera libéré de la présence du péché. Ça aussi, ça va être quelque chose. Amen. On sera dans une éternité, on ne sait pas trop ce que ça veut dire, on a du mal à le concevoir, mais il n'y aura même plus la présence de la tentation, la présence du péché. Et c'est ce qu'il nous dit. Il nous dit, lorsque Jésus-Christ va revenir, établir son royaume, et que nous serons en sa présence, et puis à la fin de ce millénaire, lorsque nous serons avec Dieu pour toujours, ce salut-là, nous n'en avons jamais été aussi proches. Et bien sûr, nous sommes plus proches qu'au moment où nous avons cru. On pourrait penser, mais Paul disait ça, et il écrivait ça il y a près de 2000 ans, et puis ce salut, cette glorification n'est pas intervenue encore. On a encore le temps d'aller s'amuser avant d'y réfléchir. Non, il nous dit, il est plus près qu'au moment où nous avons cru. La nuit est bien avancée, le jour approche. Débarrassons-nous donc des œuvres de ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire lorsqu'il parle de nuit et de jour ici? On peut regarder dans Jean 9. Je vous invite à regarder dans Jean 9, l'évangile de Jean. Dans votre Bible, si vous avez emprunté une Bible à l'église ce matin, c'est page 1202. On va lire les premiers versets. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent cette question : Maître, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ? Jésus répondit : Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient révélées en lui. Et puis il ajoute, verset 4, « Il faut que je fasse, tant qu'il fait jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Donc il y a cette idée, et on sait que par la suite, il va guérir cet aveugle et faire cette œuvre de Dieu qui est révélée dans cet homme, et qu'il n'était pas aveugle en punition pour son propre péché ou le péché de ses parents. Jésus dit, oui, qu'il fait jour. Autrement dit, il nous dit, pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Tant que Jésus était sur terre, il manifestait la lumière de la présence tangible de Dieu en accomplissant des miracles, en étant l'homme parfait que Dieu nous appelle à devenir. Mais quand il est monté aux cieux, le jour de Pâques, la lumière qu'il avait montrée, elle a, pour ainsi dire, diminué sur la planète. La manifestation physique de Dieu est partie, parce qu'il était la source divine de lumière. Mais toute lumière n'a pas été retirée, enlevée. Il y a une lumière par réflexion qui persiste. Un peu comme le soleil. Le soleil, lorsqu'il se couche, la nuit est souvent éclairée, sauf un quart du temps, par une réflexion de sa lumière. La lune peut vraiment éclairer votre chemin, vous pouvez voir presque clair par une belle pleine lune, mais ce n'est pas elle qui brille, c'est simplement la réflexion du soleil. Et de la même façon, les chrétiens aujourd'hui peuvent refléter la lumière spirituelle du Sauveur. Nous sommes appelés à être la lumière du monde. C'est difficile à accepter, parce que ça nous met une sacrée responsabilité sur le dos. Le sel de la terre, la lumière du monde, c'est ce que les chrétiens sont appelés à faire par réflexion de Jésus-Christ. Chrétien, ça veut dire des petits Christ. Un peu comme ces cellules photovoltaïques qui emmagasinent la lumière, l'énergie de la lumière du soleil et qui la restituent la nuit avec une petite loupiote. Nous aussi, on est appelés à recevoir cette lumière du Sauveur, de Dieu, et à la refléter. Tant que nous sommes sur la terre, nous devons être ces lumières, nous devons illuminer, éclairer le monde avec la lumière que nous avons reçue. Mais bientôt, et c'est ce qu'il nous dit, le salut, le retour de Christ, c'est à ça qu'il fait allusion, va se passer. Et c'est quelque chose qui doit être vraiment présent à notre esprit, le retour de Christ. La bienheureuse espérance, elle nous transforme. Lorsqu'on sait que le patron va revenir, on a tendance à être zélé au travail. Si on s'est reposé un peu pendant, sachant qu'il était parti, ça ne doit pas être le cas pour le chrétien. Mais c'est une tendance humaine, mais si nous savons que Jésus-Christ peut revenir à n'importe quel instant, Ça doit nous tenir sur le qui-vive. On ne doit pas s'endormir sur le travail. Quand il reviendra, il y aura un nouveau jour de gloire qui va se lever pour les croyants. Par contre, pour les incroyants, pour ceux qui auront refusé Jésus jusqu'au bout, ça sera une nuit qui tombera sur eux, une sombre nuit de jugement. Et dans l'intervalle, nous devons nous occuper avec zèle des affaires de notre Père. Il nous a envoyé le Saint-Esprit pour que nous soyons à même de faire ses œuvres. Il nous dit de nous débarrasser des œuvres des ténèbres et de revêtir les armes de la lumière. Donc on est entre les deux. Il y a d'un côté la nuit approche et de l'autre côté c'est le jour qui va venir. Mais entre les deux, on doit se débarrasser des œuvres des ténèbres. Les œuvres des ténèbres, c'est ce qu'on fait dans le noir. On sait que l'éclairage public a rendu les centres-villes plus sûrs, que la plupart des crimes sont commis la nuit, pas toujours, mais la grande majorité. On a le sentiment que si on ne voit pas bien, on est mal vu, et même des fois on pense que Dieu ne nous voit pas faire des choses. Pour lui, l'obscurité, c'est comme le plein jour, il nous a dit dans le psaume 139. Nous devons nous débarrasser. Alors, est-ce que ce sont nous qui commettons des œuvres des ténèbres? C'est possible. Est-ce qu'il y a des choses que vous ne voudriez pas voir révélées par vidéo ce matin sur l'écran derrière moi? C'est peut-être des œuvres des ténèbres, des choses qui nous font honte, des péchés habituels dont on n'arrive pas à avoir la victoire, où on se laisse persuader qu'on ne peut pas avoir la victoire, donc on vit avec. Mais au contraire, nous devons revêtir, c'est un peu comme enlever quelque chose, tout ce qui est mauvais, qu'on a tendance à faire lorsque on croit que personne ne le sait, et on doit revêtir les armes de la lumière, la panoplie de la lumière. Ça nous fait penser à Éphésiens 6, dans laquelle la panoplie, les armes qu'on doit revêtir pour mener le combat spirituel sont décrites, les armes de la lumière. Alors c'est pas le faisceau de Star Wars pour que la force soit avec vous, c'est toutes les bonnes choses, les caractéristiques de Jésus. Puis il détaille un peu en disant « Conduisons-nous honnêtement ?» Donc, il nous dit d'abord la première chose, on peut revenir juste un peu, à partir du verset 11, et il nous dit « Réveillez-vous, réveillez-vous. » Le sommeil spirituel, c'est très dangereux. On a l'impression d'être en sécurité alors qu'en fait on peut faire des choses qui sont complètement contraires à la volonté de Dieu. On est pris englué dans une torpeur, des fois. Le matin, je sais que si je n'ai pas pris ma tasse de café, Nancy évite de me parler parce que je sais que je suis encore englué dans la torpeur du sommeil et que je peux dire oui à tout et à rien. Donc, se réveiller, montrer de la repentance, retrouver du zèle, du témoignage, marcher selon l'Esprit. Et puis, il faut s'armer, donc revêtir ses armes de la lumière. Jésus, c'est comme le lever du sommeil. Ça, c'est dans 2 Pierre 1,19 qu'il en est question. Le camp ennemi, c'est là d'où viennent les œuvres de ténèbres. Par contre, le camp de Dieu, c'est là que nous avons la lumière qu'est Jésus-Christ et nous sommes des petites lumières par réflexion. Marcher, se conduire honnêtement, c'est-à-dire décemment, comme en plein jour. Ça veut dire marcher dans la voie de la sanctification, ça veut dire rejeter tout péché, demander l'aide de Dieu. Et puis il précise, il y a des excès de tout genre, des orgies, des excès de même de table, même des excès dans le travail, dans les sports, dans le plaisir, dans la sexualité. La sexualité, il revient en disant, il parle aussi de pas d'ivrognerie. On doit être influencé par l'Esprit Saint. On ne doit pas être sous le contrôle de l'alcool, de drogue ou de quoi que ce soit qui ne soit pas l'Esprit Saint. L'immoralité sexuelle, l'impureté sous toutes ses formes. Nous vivons malheureusement dans une époque où cette impureté sexuelle qui est dans notre vieille nature, elle est facilitée par l'accès ultra facile à la pornographie, aux sites de rencontres, à toutes sortes de libertinage et de choses qui sont destructrices. Qu'on ne peut faire que la nuit parce qu'on en a honte, qui attristent l'Esprit Saint parce qu'elles nous font du mal. Ces choses ne sont pas des choses qui nous font du bien en cachette. Le fait qu'on soit en cachette, ça nous isole des autres, ça ne nous permet pas d'avoir une relation honnête et sincère. La débauche, oui. Et puis il y a aussi l'aspect des relations avec les autres, sans dispute ni jalousie. Toutes ces caractéristiques, ça montre ce qui ne doit pas se trouver dans la vie d'un chrétien. Pas de manque de discipline personnelle en se livrant à des orgies, à l'ivrognerie, je peux pas m'empêcher de boire un coup. Dans le manque de moralité personnelle, un chrétien ne peut pas manquer de moralité personnelle. Sinon, c'est un faux chrétien, c'est quelqu'un qui donne l'apparence, qui veut donner une apparence. Tout ce qui est moralité sexuelle, sensualité, les flirts, les aventures sentimentales, c'est des jolis noms, mais c'est jouer avec le feu. Le manque d'amour dans les relations avec les autres, la dispute et la jalousie. Toutes ces choses-là, ça ne doit pas avoir place dans notre vie. Et le secret, il nous le dit au verset 14, c'est de se revêtir du Seigneur Jésus-Christ. Donc c'est se revêtir des armes de l'esprit, mais aussi de dire « je veux être comme Christ ». Si Dieu m'accepte, c'est parce que lui m'a déjà revêtu du Seigneur Jésus-Christ. Lorsque j'accepte le Seigneur Jésus-Christ, Dieu ne me voit plus, moi, Pierre, un pécheur par nature. Il voit le vêtement blanc de pureté parfaite de Jésus-Christ. Un peu difficile à imaginer, parce qu'on sait ce qu'il y a dans nos cœurs, mais en même temps, si on se dit que Dieu nous voit comme ça, on a envie de vivre à la hauteur de cette vision que Dieu a de nous. Et en ça, c'est une très bonne chose. Donc on doit se dévêtir des œuvres des ténèbres, et puis se revêtir du Seigneur Jésus-Christ. Et puis il ajoute, je terminerai par là, ne vous préoccupez pas de votre nature propre pour satisfaire ces convoitises. C'est quelque chose de très important. C'est très important. Qu'est-ce que ça veut dire ? Le mot qui est utilisé, ne faites pas de provision pour la chair, provision pour la vieille nature. Quand vous allez faire des provisions au marché, vous utilisez peut-être un filet à provision. Est-ce que vous êtes jamais dit qu'en fait, le mot provision, ça ne voulait pas dire filet à provision, ça voulait dire voir à l'avance, ça voulait dire prévoir. C'est une prévision, une provision. J'achète de la nourriture pour lorsque quand j'aurai faim, je pourrai manger. J'aurai une provision de nourriture. Et dans notre vie, on peut avoir la même attitude en disant, là aujourd'hui, devant tout le monde, je ne peux pas pécher ouvertement. Mais si j'étais un bon chrétien, des fois ça fait du bien de se laisser aller un peu, de pécher un petit peu. Je ne vais pas boire de l'alcool devant tout le monde, mais la prochaine fois que je vais au supermarché, je prendrai une petite bouteille de whisky. Et je la garderai dans mon placard. Ou alors, je ne peux pas lire de la pornographie devant tout le monde. Alors je parle comme quelqu'un d'avant Internet, mais peut-être que j'ai vu qu'il y avait au grenier, il y avait ce vieux Playboy. Je vais le garder là, juste au cas où j'aurai une tentation trop forte. Ne vous préoccupez pas, ne faites surtout pas ça. Débarrassez-vous de ce qui peut être une source de tentation, de ce qui peut être une source de chute, une source de péché. Faites-le maintenant. N'attendez pas en disant « Oh, il n'y a pas urgence ». Si vous savez qu'il y a des choses qui sont susceptibles de vous faire tomber dans le péché, débarrassez-vous-en. Si c'est Internet, arrachez le câble ou arrachez votre box. N'attendez pas de dire « Oh mais non, mais il y a des bons programmes chrétiens » ou « Il y a des jolis reportages animaliers ». C'est vrai, mais si vous avez une tentation dans vos yeux et dans votre esprit, ne faites pas de provision pour votre vieille nature. Et je dois dire que ce verset, j'ai étudié, j'ai eu le bonheur et le privilège d'apprendre Romains tout de suite après ma conversion, d'étudier Romains, et ce verset m'avait vraiment frappé et il m'a beaucoup aidé au cours de ma vie chrétienne. Je ne sais pas s'il y en a d'autres qui seraient à même de dire ça, mais alors malheureusement, l'esprit et notre vieille nature est pleine de ressources pour couper, pour tricher, même avec. Mais embrassez ce verset. Revêtez-vous du Christ et ne faites pas de provision pour la chair. Ça va vous aider de façon formidable. Voilà, on a parlé de ces choses. Je vous ai dit qu'on avait parlé de Saint Augustin. Il est né en 386 de notre ère, en Kabylie. Et il a énormément influencé l'Église. L'Église catholique s'inspire beaucoup de ses réflexions, de ses écrits. Et lui, il est bon de savoir qu'en fait, il menait une vie de playboy. Je ne sais pas comment on disait ça en latin, mais pleios buius. Mais il était dans un empire romain qui était plein de décrépitude, de toutes les perversions possibles. On sait que les femmes des empereurs se livraient à la prostitution, qu'ils se coupaient la tête à droite, à gauche, que c'était vraiment une décrépitude morale complète. Mais cet homme était torturé intérieurement parce qu'il savait qu'il vivait dans le péché. Et il réalisait qu'il était totalement incapable d'avoir une vue pure par ses propres forces. Sa mère était une chrétienne et il avait, dans cette période d'angoisse spirituelle, il avait trouvé dans le jardin de la maison familiale une copie de la lettre de Paul aux Romains qui était ouverte au chapitre 13. Et l'histoire nous dit qu'il entendait dans la rue, sans les voir, des enfants qui chantaient « Ramasse et lis ». Rattrape ce que tu as devant toi et lis-le, faisant la lecture. Ramasse et lis, ramasse et lis. Et là, il s'est dit, c'est peut-être Dieu qui veut me parler. Il a donc pris le manuscrit qui était ouvert au chapitre 13 et il est tombé sur les versets 13 et 14. Conduisons-nous honnêtement comme en plein jour, sans orgie ni ivrognerie, sans immoralité ni débauche, sans dispute ni jalousie, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et ne vous préoccupez pas de votre nature propre pour satisfaire ses convoitises. Il est tombé là-dessus, il s'est repenti et il est devenu un grand homme que Dieu l'a utilisé de grande façon. Ne soyons pas comme cet enfant à qui la maman avait interdit de se baigner dans la rivière et qui avait vu, la maman avait vu qu'en fait en sortant le petit garçon, on voyait qu'il y avait le maillot de bain qui dépassait sous ses poches. Et sa maman l'interpelle et lui dit « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Elle dit, et l'enfant de répondre « Je n'ai pas l'intention de me baigner, maman, c'est seulement pour le cas où je serai tenté. » Ne faisons pas la même chose avec notre vieille nature et notre vie spirituelle. Revêtons-nous du Seigneur Jésus-Christ. Prions. Seigneur, merci pour ta parole. Tu veux que nous soyons des hommes et des femmes de Christ, des pieds à la tête, et que nous ne donnions pas l'occasion à notre vieille nature de pouvoir s'exprimer, de se manifester. Seigneur, aide-nous à saisir ces concepts, ce concept de cette dette d'amour que nous ne pourrons jamais payer, mais que nous devons payer dès que nous en avons l'opportunité, par petit versement. Seigneur, aide-nous à vraiment être réveillés, à ne pas nous laisser endormir par la société autour de nous. Aide-nous à être une influence salvatrice dans cette société, Seigneur. Que les gens sachent que nous sommes tes disciples, parce que nous avons de l'amour pour les autres, mais remplis-nous d'amour aussi pour tous ceux qui nous entourent, Seigneur. Sois glorifié, sois béni. Merci que nous pouvons affirmer ces choses parce que tu es ressuscité. Tu es vraiment ressuscité. Amen.